chaque fin de semaine, les rendez-vous de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême sur Attitude.
Bonjour et bienvenue sur Attitude, comme chaque fin de semaine, maintenant vous avez l'habitude de ce rendez-vous de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême. Enrico est bien ficelé sur son fauteuil comme à son habitude, il va vous présenter notre invité et le thème de cette semaine. Bonjour Enrico.
Salut mon petit lapin, t'as vu ficelé mais bien libre de ses mouvements de ses mains.
Tu as de la chance qu'on puisse pas te filmer.
Exactement, sinon je serais en prison. En prison des enfants, hein, parce que normalement on va pas en prison pour ça, mais tout peut arriver. On va faire une émission classique, bien sûr, avec une nouveauté. Toutes les informations qu'on va vous donner aujourd'hui, vous pourrez les retrouver directement sur le site de l'office au www.angoulême-tourisme.com ou en passant par les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous allez sur Angoulême Agenda et vous retrouverez vraiment tout ça. Vous n'hésitez pas non plus à venir nous rencontrer en direct si vous le souhaitez, directement dans la cour de l'hôtel de ville au niveau de l'office de tourisme. Vous pourrez nous retrouver tout cet été régulièrement sur site, ou nous appeler tout simplement au 05 45 95 16 84. On a un petit nouveau, c'est la première fois qu'il vient, je pense. Nous, ça fait 25 ans qu'on fait ça, Jérôme.
C'est ça.
Et Pascal, c'est sa première. Pascal Lévesque, bonjour à toi.
Bonjour.
On va se tutoyer parce qu'il a le même âge que nous, parce que je crois qu'à l'école, on se croisait.
C'est ça.
Mais si je dis pas de bêtises. Et donc, tu es vieux.
Oui.
Non, tu es jeune. Tu es jeune. Responsable. Alors, d'un des musées qui a le truc le plus long du monde.
Donc, l'espace mémoriel de la résistance et de la déportation de la Charente.
Exactement. Espace mémoriel de la résistance et de la déportation de la Charente. L'ancienne maison de Calvin, pour les gens qui sont au courant, dans le vieil Angoulême, vous pourrez retrouver, hein, vraiment, on n'est pas loin de la place des Halles. Je n'ai plus le nom de la rue. C'est rue de Genève, exactement. Merci à toi, Pascal.
D'où la maison de Calvin.
Exactement. Oui, tu as raison, d'ailleurs. Oui. C'est lié.
C'est pour ça que ça s'appelle rue de Genève.
tu as raison. Il est en train de me bâcher en direct.
Ouais, je crois
une première.
Tu travailles où, toi, déjà, Enrico?
Oh, je travaille... J'ai travaillé beaucoup d'années dans le goudron, là-bas, à Villecrenes, avec les Portugais. Non, je déconne. L'espace mémoriel est ouvert exceptionnellement, et c'est ce qu'il faut retenir. Il va être ouvert jusqu'au 26 août. Les gens nous le demandaient, la région l'a fait. Et ça fait du bien.
Département.
Excuse-moi, je voyais la Charente, le département, et je dis la région bêtement. Le département de la Charente l'a fait, bien sûr. Alors, anciennement conseil général, ça ne se dit plus, mais sachez que voilà, c'est le département de la Charente qui nous permet de pouvoir aller visiter avec Pascal cet espace mémoriel qui est ouvert de 10h30 à 12h30, excusez-moi, et de 14h à 18h30 du lundi au vendredi. Donc on n'oublie pas, voilà, jusqu'au 26 août, et on donnera d'autres petites infos pour les vacances scolaires et pour les écoles, les ateliers, tout ça. On vous donnera plein de petites infos. Content de t'avoir parce que c'est quelque chose qui est très demandé. Je veux que tu nous expliques un peu de quoi se fait ce fonds pour l'espace mémoriel, comment vous l'avez eu, parce que c'est quelque chose, je me suis toujours demandé comment vous l'aviez acquis.
Alors, donc en fin de compte, c'est issu du musée de la résistance et de la déportation qui avait été créé par les associations d'anciens résistants et déportés.
D'accord.
Donc ils avaient récupéré toutes les collections auprès de leurs adhérents qui avaient des objets chez eux et donc ont donné leurs objets personnels
pour qu'ils soient vus.
Donc l'intérêt de ce musée, c'est qu'effectivement tous les objets sont locaux, c'est-à-dire que tout ce qui est présenté a été soit appartenu à un Charentais, soit a été trouvé en Charente. Donc voilà, c'est vraiment une collection locale. Et donc le musée de la résistance donc a fermé en 2009 et donc a été repris par le conseil général à l'époque. Et donc on a fermé pendant 5 ans pour faire des travaux. Et surtout repenser toute la scénographie, parce que donc le but principal du département, c'était de faire un espace pédagogique à destination des scolaires. Et donc on a refait toute une scénographie moderne, pédagogique, et donc on fait vraiment le tour de l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale par 5 espaces thématiques, donc
D'accord.
l'occupation, la répression, la déportation, la résistance et la libération. Et donc ce qui permet de faire un tour complet de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par le prisme local, parce que donc en Charente, il s'est passé tellement de choses qu'on peut illustrer tous les thèmes de la Seconde Guerre mondiale avec l'exemple local.
Alors ça, c'est un truc qui est assez exceptionnel, parce que oui. C'est vrai que le département a été coupé en deux. Hein,
c'est ça.
Si je dis pas de bêtises, t'es meilleur que moi.
On a eu donc la ligne de démarcation qui a été installée le 25 juin 1940 et qui a coupé la Charente en deux. Donc 70% du territoire sera en zone occupée et 30% en zone libre, donc tout le Confolenté.
Confolenté,
zone libre. En fin de compte, la ligne de démarcation passait à La Rochefoucauld.
D'accord, pour donner une idée aux gens, exactement.
Pour donner une idée aux gens. Donc, coupé à La Rochefoucauld, et donc, toute la partie Chasseneuil, Confolens, était en zone libre.
D'accord, donc, c'est ce qui permet aussi de comprendre mieux que la Charente ait vraiment eu un gros volume d'objets, puisque voilà, la découpe de ce département a fait qu'il y avait par nature des occupants et des résistants.
Tu
me reprends si je dis des bêtises.
Tout à fait.
Non, je suis pas très fort.
Il n'y a pas de souci.
Et donc, vous avez pu avoir un maximum de fonds. Des fonds que tu mets dans leur globalité à disposition, où on sait qu'il y a des fonds que tu ne peux pas mettre et il y a des objets qui tournent régulièrement.
Oui, alors tout à fait. Alors donc on a décidé lors de la réfection du musée la transformation en espace mémoriel, vu qu'on voulait faire un espace pédagogique, on a volontairement allégé les collections, parce qu'autrefois c'est vrai qu'il y avait beaucoup de
c'était la vitrine qui prévalait.
Des grosses vitrines avec 15 mitraillettes dedans, la même, mais en 15 exemplaires. Donc là, on a décidé d'en mettre qu'une seule, mais bien présentée. Comme ça, on se rend mieux compte
de l'objet.
Donc on a vraiment allégé au maximum. Et donc le reste des collections donc est en réserve. Et on les sort régulièrement quand on fait des expositions temporaires. Ça nous permet de pouvoir agrémenter l'exposition d'objets.
Exactement.
Voilà.
Au niveau des fonds, parce que je sais qu'au niveau scénographique, moi je l'ai fait il y a quelques années. Malheureusement, c'est vrai qu'après le Covid, ça a été un peu compliqué, mais je l'ai fait il y a quelques années. Vous avez des fonds photographiques qui sont assez impressionnants et des visuels qui marquent. Vous les avez acquis comment, ou est-ce que c'est une collaboration?
Eh bien, toujours pareil, c'est les anciens qui avaient récupéré toutes ces photos, et donc ce qui nous permet justement d'avoir quand même une belle collection d'images sur Angoulême. Mais la Charente.
Oui, et ça c'est assez impressionnant. On parlait bien sûr de visites. Là, bien sûr, pour cet été, on parle de visites libres. Hein, oui. Bien sûr, pour les gens, toi, tu ne peux pas être mis à disposition constamment.
Alors, il y a toute la journée des visites libres, donc de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Mais on fait aussi des visites guidées, donc tous les soirs à 17h15,
une visite guidée possible, payante.
Gratuite.
Donc ça, c'est bien de le rappeler. Le musée est gratuit, les visites guidées sont gratuites, 17h30, tu m'as dit.
Tout à fait.
Pour la seule visite guidée, donc vous n'hésitez pas. On fait une petite coupure musicale et publicitaire. On revient toujours avec Pascal Lévesque et l'espace mémoriel de la résistance et de la déportation de la Charente. Oh, faut avoir du souffle. Hein. On va continuer à vous parler, bien sûr, des expositions permanentes et des expositions temporaires et des différents moments où vous pourrez, bien sûr, retrouver ce site qui est ouvert exceptionnellement cet été jusqu'au 26 août. Petite coupure musicale et publicitaire, et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de l'émission de l'Office de Tourisme du Pays d'Angoulême.
Chaque fin de semaine, Attitude reçoit les invités de l'Office de Tourisme du Pays d'Angoulême.
Seconde partie sur Attitude de votre émission de l'Office du Tourisme du Pays d'Angoulême, toujours avec Enrico et notre invité que tu vas rappeler aux auditeurs.
Exactement, toujours avec moi, parce que je suis quand même le plus important, et notre invité qui a une valeur plus importante que moi pour le sujet qu'on va aborder, qu'on a déjà abordé sur la première partie. Pascal est toujours avec nous, toujours pour à nous parler de cet espace mémoriel de la résistance et de la déportation de la Charente, qui sera ouvert jusqu'au 26 août pour tous les gens qui veulent en profiter, bien sûr, en semaine du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. N'oubliez pas, bien sûr, et on l'a dit en fin de première partie d'émission, mais je vous le rappelle, visite visite guidée thématique, occupation, résistance ou n'importe quel volet, on pourra le faire sur rendez-vous si vous voulez, du lundi au vendredi à 17h15 ou 17h30.
Je sais 17h15.
17h15.
Voilà. Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit. Tu as raison, Pascal, de le rappeler. En marge, bien sûr, de cette exposition permanente, je sais qu'on a des expositions temporaires. En ce moment, on en a une dont tu vas nous parler.
Donc, actuellement, c'est une exposition sur la citoyenneté, donc qui a été faite en collaboration avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, donc l'ONAC. Et donc, ça retrace l'histoire de la citoyenneté de 1789 à nos jours. Et donc, on étudie les différents thèmes donc de la citoyenneté, les différentes périodes, donc notamment la Première Guerre mondiale, où il y a eu un grand élan de devoir de mémoire à l'issue de la Première Guerre mondiale, la Seconde, bien évidemment, et tout ce qui s'est passé ensuite, donc la création de l'ONU, la construction de l'Europe...
Et tout ce qui fait qu'aujourd'hui on a une tendance à l'oublier, voilà. Et un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est bien de remettre des mots, des histoires sur ce mot, puisque le mot citoyenneté est facile à dire, mais voilà. Après il y a aussi des devoirs et des obligations. C'est ce que l'on retrouve lors de cette exposition, et ça c'est assez important. On peut en profiter. On a parlé un peu de tout. Je voudrais quand même qu'on parle un peu de toi. Je sais que t'es pas forcément fan, mais comment t'es venu la passion de cette période, parce que pour être là et pour que tu sois à même de pouvoir en parler aux écoles, est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours aimé ou c'est un truc qui est arrivé par hasard?
Alors, j'ai toujours aimé.
Parce que t'es quand même au musée depuis combien de temps maintenant?
Depuis 25 ans.
On est d'accord, voilà.
Ouais, ça fait un petit moment, oui.
Et je me dis qu'il faut quand même être impliqué et imprégné par ça.
Faut être.
Parce que c'est un sujet qui est grave et qui est important. Donc,
faut être passionné et c'est surtout que j'ai eu la chance de rencontrer les anciens résistants et déportés à l'époque où le musée était associatif, et c'est vrai que les ayant côtoyés et connus et appréciés
oui, exactement.
Surtout c'est vrai que je me sens un petit peu on va dire une mission. Je me sens redevable de maintenir leur mémoire et effectivement de continuer à transmettre aux nouvelles générations les valeurs de la résistance
et de la République,
la déportation.
Exactement, et de tout ça. C'est un truc que je me suis toujours, parce que il y a 25 ans, on va dire aux gens la réalité. On se connaissait un peu plus jeune. T'étais jeune quand t'es rentré là-dedans et quand tu t'es intéressé à ça. Et comment s'est fait le rapport entre des personnes vraiment plus âgées que nous et toi à l'époque qui étais un petit jeuneau?
Deux générations de différence.
Je dis pas de bêtises, voilà,
ça s'est vraiment très vite
naturellement
passé, parce que c'était des gens formidables et qui étaient très ouverts, justement du fait de la vie qu'ils ont vécue en étant jeunes. Ça leur a ouvert l'esprit et ouvert vraiment à différents horizons. Et donc ils étaient vraiment très ouverts et au contraire leur souhait c'était vraiment de transmettre aux nouvelles générations, donc ils étaient contents de trouver un jeune qui allait transmettre reprendre le flambeau,
bien sûr,
pour pouvoir continuer à transmettre aux futures générations. Donc du coup j'ai été intégré très naturellement. Et
alors ça c'est un truc aussi toujours pareil, toutes ces histoires tu les as gardées, tu les as gravées, tu les as dans ta tête ou tu les as peut-être dans des cahiers, elles te servent aujourd'hui pour les expositions et pour les informations que tu donnes au public, puisque on parlait tout à l'heure du tout public et de certaines visites guidées pour le tout public, mais je sais aussi que tu as tout un volet pédagogique qui est voulu et qui est aussi l'une des missions de l'espace mémoriel pour les enfants et pour les écoles. Je voudrais que tu nous en parles un peu.
Oui, alors donc la principale mission de l'espace mémoriel, donc c'est un lieu pédagogique. Donc on reçoit principalement des scolaires toute l'année, donc sur réservation. Donc ça va du CM2 jusqu'au terminal. Alors même si la grosse tranche maintenant c'est principalement CM2 troisième, en collège, parce que maintenant avec la réforme du bac on a un peu moins de lycéens parce que c'est compliqué.
C'est clair.
Donc c'est principalement collégiens et école primaire, mais évidemment je me nourris et je me suis nourri effectivement de
des anecdotes
de tous mes anciens. Et justement, effectivement, j'essaye
de redonner l'histoire à ses enfants, mais sur une vérité, c'est ça aussi. C'est
tout
que
à fait.
Quand on n'est pas dans un livre, tu racontes pas une généralité.
Non.
T'es capable
de raconter l'histoire d'une personne en particulier. Et justement, c'est ce que les gamins retiennent plus facilement, parce qu'on retient plus facilement une anecdote plutôt que des dates ou des faits nationaux.
Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle un peu de toi. C'est ce lien que toi, tu continues à faire perdurer, il est plus humain et il est plus humanisé via vraiment des histoires avec des noms, avec des gens, avec des lieux, et d'un coup d'un seul tu c'est comme si tu racontais un livre ouvert quoi, et que tu le balances et que les gens le prennent. Je pensais à ça, on pense souvent quand on parle d'espace mémoriel et de résistance à la Seconde Guerre mondiale, on pense bien sûr à la déportation, et ça c'est important.
Tout à fait.
Est-ce qu'on pense également, parce que je sais qu'il y a une forte communauté espagnole, et aux républicains espagnols, parce que je sais que c'est les premiers malheureusement déportés.
Tout à fait. Alors justement, quand je fais mes médiations, je mets un accent particulier sur les Espagnols, parce que c'est pas toujours très connu. Et effectivement, il faut savoir que le 20 août 1940, le premier convoi de déportés de France est parti d'Angoulême avec 927 Espagnols. Donc c'est vraiment très important, d'une part pour la communauté espagnole, mais pour la communauté mondiale, c'est très important de se souvenir de ce convoi. Donc effectivement, je mets toujours un accent dessus, parce que c'est vrai que on parle toujours de la déportation des Juifs, mais malheureusement, il n'y a pas que les Juifs,
bien sûr,
qui ont été déportés. Il y a beaucoup de communautés, dont les Espagnols, il y a les résistants,
il y a les gays,
les
indigènes, il y a plein de...
Tout à fait, donc il y a beaucoup de gens qui ont été réprimés pendant cette période, et donc c'est important de parler de toutes les communautés sans exception.
Et c'est vrai qu'on a une histoire, hein, la Charente a une histoire avec les républicains espagnols. Et je fais un coucou à monsieur Lazaro, qui est le président, je crois,
qui est le président, oui, voilà, de l'association des Espagnols de la Charente, et donc qui justement
continue lui aussi à transmettre
ses devoirs de mémoire, justement en particulier pour le convoi des 927. Ils font beaucoup d'événements autour, et puis autour d'anciens témoins aussi. Enfin, malheureusement, le dernier témoin est décédé, mais il n'y a pas très longtemps, ils ont fait une pièce justement sur José Alcubierre, donc qui était un rescapé du camp de Mauthausen, donc qui a été déporté à l'âge de 14 ans, et donc qui, heureusement pour lui, est revenu, mais malheureusement, son père est décédé là-bas, et donc c'est justement grâce à son père qu'il a pu survivre, parce que son père lui donnait la moitié de son pain tous les jours pour qu'il puisse résister.
Lui être encore présent jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est ce genre d'histoire que Pascal peut vous raconter. Je fais un bisou à monsieur Lazaro, parce que je le connais depuis que je suis tout petit et j'ai une affection particulière pour lui. Ruellois et ami depuis presque 50 ans, donc je l'aime. Et voilà, je voulais lui dire en direct, c'est bien ça aussi. Mais Pascal sera présent pour vous raconter ce genre d'histoire. Là, on a pris un exemple, mais bien sûr, vous aurez des possibilités, voilà, de lui poser des questions comme moi je l'ai fait. Ce n'était pas du tout prévu, mais voilà, il nous l'a raconté, et vous aurez la chance lors de ces visites guidées thématiques de pouvoir vous pencher là-dessus du lundi au vendredi à 17h15 pour les gens qui veulent que Pascal soit présent avec vous pour vraiment vous balader à travers les différents les cinq espaces.
Oui.
Exactement. Pour les gens qui veulent en profiter, vous pouvez y aller de façon libre et gratuite jusqu'au 26 août. On peut te contacter pour tout ce qui va être visite guidée, atelier, ou on passe directement par le site internet.
Faut passer directement par le site internet.
HTTPS, voilà, c'est www.patrimoine16.lacharente.fr. Vous retrouverez toutes les infos et vous pourrez faire des réservations. si vous le souhaitez. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Alors, je voulais juste rajouter si aussi qu'on avait un atelier tous les après-midi cet été, donc à 15h. Donc, autour de l'exposition La Citoyenneté, il y a aussi un jeu de loi, donc qui est un jeu familial. Donc, ça permet de pouvoir venir avec les enfants ou les petits-enfants.
Oui, oui. Papy, papa voilà. Et mamie et petit-enfant peuvent
et
venir.
Et ça permet de pouvoir jouer au jeu de loi sur le thème de la citoyenneté, donc avec 5 thèmes, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, le volet mémoire, Europe et citoyenneté.
Exactement. Donc voilà, un jeu ludique et interactif, on n'hésite pas, on peut en profiter à 15h et sur rendez-vous. Il suffit de vous présenter et vous aurez la possibilité vraiment de profiter au maximum. Merci à toi, Pascal, d'avoir été avec nous.
Ben, merci, Enrico.
Et nous, on se retrouve prochainement. On vous rappelle, hein, bien sûr, que tous les petits feuillets, livrets, informations, vous pouvez les retrouver directement au BIM, au Bureau d'information municipale et à l'Office de tourisme, puisqu'on est partenaire dans la cour de l'Hôtel de Ville. Ou également nous téléphonons au 05 45 95 16 84. On n'oublie pas bien sûr les différents sites, Instagram, Facebook, site internet, toujours angoulême-agenda, et vous devriez nous retrouver facilement. On se retrouve la semaine prochaine, mon GG National, avec un nouvel invité. Je te laisse finir la partie d'émission, tout simplement.
Merci Pascal de votre venue dans les studios de l'Attitude.
Merci à vous.
Nous, comme tu viens de le dire, on se retrouve, même heure et même fréquence, la semaine prochaine. Et bon week-end d'ici là.